Oui, merci. Merci de votre invitation. Je n'avais pas tout à fait prévu de calibrer les choses sur les questions de rendement parce que oui. La force de l'image dépasse largement tout ce qu'on peut expliquer là à l'oral, mais c'est tout de même une vérité qu'il faut évidemment tempérer dès lors qu'on parle de rendement brut, voilà, donc ce qui a été dit tout à l'heure, donc, les équilibres entre les achats et tout ça est important. Là, je pense qu'on doit un peu essayer de faire le point sur les liens qui peuvent être entre l'agroécologie, la bio, qu'est-ce que peut apporter l'un à l'autre, quoi. Alors, il y a évidemment des points de convergence nombreux, il y a quelques points de dissonance, on va dire, mais il y a surtout beaucoup de pistes d'évolution qu'on doit un peu travailler ensemble. Je pense qu'il faut voir ça, comme ça. Alors, on peut imaginer l'agroécologie. Ça me fait bizarre de parler là, c'est bien au niveau du son. Ah bon, c'est pas bon pour moi, c'est tout. Et donc on peut imaginer l'agroécologie aujourd'hui comme un peu un concept fédérateur qui fasse évoluer les pratiques, qui enclenche une sorte de cercle vertueux d'amélioration des pratiques vers une agriculture plus soutenable, vu que le terme soutenable est beaucoup plus approprié, notamment en France, que durable. Alors, ça, c'est pas gagné parce que, avant de venir ici, j'ai fait un peu le point un peu sur la presse par rapport à ce qui s'est dit par rapport au colloque. On a beaucoup de papiers un peu élogieux par rapport à la tenue de ce colloque, les choses qui sont avancées, les promesses du ministère. On a aussi des papiers durs, très mal écrits, bien souvent, pour leur transmettre, mais très mauvais, qui sont quand même issus de forces réactionnaires qui s'organisent pour décrédibiliser tout ce qui se fait. Pour eux, la bio, comme l'agroécologie, c'est qu'une somme de contraintes environnementales, de normes, et surtout d'empêchement de profiter en rond. Donc, bien entendu qu'ils s'organisent par rapport à ça, et l'organisation, c'est la décrédibilisation. Alors, pour lutter contre la décrédibilisation, je pense que l'agriculture, l'agroécologie doit se définir. Et peut-être qu'aujourd'hui, mais je vois ça d'une vision très française, mais l'agroécologie n'est pas suffisamment définie pour ne pas risquer la récupération. On a connu l'agriculture raisonnée, qui est morte aujourd'hui, je pense, très très faible tout au moins. Je connais des paysans qui sont inscrits dans l'agriculture raisonnée avec une vraie volonté, en se disant, ben voilà, c'est un outil que l'on va prendre pour évoluer, tout ça. L'agriculture raisonnée a été vite reprise en main par le pouvoir économique et ça a donné ce que ça a donné, donc rien du tout, puisqu'il était c'est le greenwashing, quoi, le terme français, je ne sais pas trop ce que c'est, mais bon, c'est ça, tout le monde comprend. On a l'agriculture écologiquement intensive, donc nouveau concept, une avancée de plus, voilà. Je suis un peu moins optimiste par rapport à l'implication de Terena dans l'agriculture écologiquement intensive et dans le virage de Terena en tant que support de l'agroécologie. Je pense que là, il faut y voir à deux fois. Est-ce qu'on n'est pas là, justement, sur les forces économiques qui essayent de reprendre en main un dispositif qui avait ses promesses? On a l'agriculture, l'agroécologie qui s'annonce là, enfin qui s'annonce en France, parce qu'on commence à en parler au niveau mondial, c'est défini depuis longtemps. D'ailleurs, ça veut souvent dire agriculture biologique dans beaucoup de pays, qui ne connaissent pas l'agriculture biologique telle qu'on la connaît ici, quoi. Donc bon, l'agriculture écologique arrive. Si on ne sait pas la définir, si on ne sait pas mettre des règles, des termes derrière cette terminologie, elle risque d'être récupérée. Beaucoup moins facilement parce que justement, il y a une histoire, il y a de la longueur, il y a de l'international et aujourd'hui, il y a quand même une vraie volonté de faire évoluer les choses, quoi. Donc cette définition, il faut que l'agroécologie le fasse. Mais il y a d'autres terminologies. J'ai entendu parler agriculture paysanne, petite ferme. Que veulent dire tous ces termes? Si on veut réellement que ces termes apportent quelque chose à la modification de notre agriculture, il faut que l'on y mette une réalité derrière, une définition. Sinon, après, tout le monde l'utilise. Et voilà. Juste pour redire une fois de plus que l'agroécologie, on doit vraiment la comprendre telle que la comprennent les pays du Sud, notamment les pays d'Amérique du Sud, voilà, où très clairement il y a un assemblage entre la société civile, un certain monde économique, le monde paysan, pour construire l'agroécologie. Et c'est cette définition qu'il faut que l'on sache construire. Alors la bio, quant à elle, elle a déjà une histoire très longue, puisque la bio est née en même temps que la chimie, donc dans les années 20, bon, je ne vais pas vous faire l'histoire. Mais l'histoire s'est créée autour également de définitions précises, qui ont été autour de l'agronomie au départ, autour de certaines formes de philosophie, autour de Steiner, qui avait un accès plus philosophique, mais aussi autour de la santé des consommateurs et aussi la santé des utilisateurs, thème qui est très peu utilisé au niveau de l'agroécologie, hein, mais l'agriculture biologique s'est quand même créée. Peut-être principalement, après s'est développé grâce à ça. Quoi. Alors ça, c'est les fondamentaux sont créés sur cette opposition à une agriculture chimique. Quoi. Voilà. Alors pour ça, la bio s'est donné des règles. Elle s'est définie, donc, ce qui lui a permis d'exister jusqu'à aujourd'hui, telle qu'on la connaît aujourd'hui. Alors au début, les règles étaient des règles. On va dire ça, des règles privées, quoi, enfin, définies entre un groupe de producteurs, un groupe de consommateurs, des règles privées. Ça a évolué, on arrive aujourd'hui à des règles très normées, avec les règles européennes, qui entraînent en même temps une vraie reconnaissance. Donc une récupération, là aussi, très peu possible, et on le voit bien, quoi. Donc, ces cahiers des charges, maintenant on appelle ça des cahiers des charges, hein, les grandes dates, donc à partir de 1920, un développement. Dans les années 60, un développement en France, c'est l'origine de la bio en France, bon, on pourra discuter après, on va faire l'historique, mais bon, principalement la bio s'est bien développée en France autour des marques privées qui étaient Nature et Progrès et beaucoup d'autres, Nature et Progrès qui subsistent encore. La première reconnaissance en 1985 du logo AB par le ministère français, qui était précurseur là-dedans, et là-dessus le ministre Le Foll a tout à fait raison. Les règles européennes qui sont arrivées en 92, qui ont là établi des normes très strictes, on va dire, et bien construites. Quoi. Pour arriver aujourd'hui, on est toujours sous cette... On a évolué, j'y reviendrai aussi, quoi. Mais ces règles-là, qu'est-ce qu'elles ont entraîné, notamment en termes d'innovation? Elles ont entraîné des innovations, puisque de la contrainte, finalement, naît l'innovation. Quand on n'avait pas de contrainte, quand on n'avait pas d'obligation, l'homme est feignant, hein, moi y compris, peut-être encore plus, mais voilà, donc, rien à faire. Si vous n'avez pas de contrainte, vous laissez aller. De la contrainte naît l'innovation, des contraintes offertes par la bio, des règles, construite avec les consommateurs qui donnaient des obligations, sont nées des innovations. Et bon, le ministre en a parlé tout à l'heure, l'innovation que l'on peut... Enfin, si on peut, oui, c'est une innovation. De remettre des cultures associées en plein champ, c'est une innovation pour arriver à se passer d'agrochimie en pesticides, en herbicides. Voilà, donc de l'interdiction des pesticides, on met en place des outils qui nous permettent, donc la sélection variétale, adaptée, voilà, donc... Il est clair que de la contrainte naît l'innovation. D'ailleurs, si on regarde bien notre société, qui est sous la contrainte de l'économique et du dictat bas coût, ça a entraîné des innovations terribles. Voilà, on arrive à faire produire et vivre des poules sur une feuille A4. Ça, c'est simplement pour qu'elles ne coûtent pas cher. On arrive à bidouiller le génome d'une plante pour qu'elle reconnaisse le produit toxique de la firme qui l'a créé, voilà, c'est aussi pour baisser les coûts dans un certain sens. Donc, voilà, de la contrainte de l'innovation. Donc, ce que je voulais dire un peu par rapport à cette question d'innovation, et voilà. Donc après, on peut développer beaucoup d'exemples sur ce qu'a créé, on va dire, la bio, l'innovation, le compost, par exemple, est un exemple. Mais Il y a un autre champ d'innovation de l'agriculture biologique qui est moins connu, et qui est quand même le champ de ce qu'on peut appeler l'économie sociale et solidaire. La bio est bien investie, très investie dans l'économie sociale et solidaire. Je me souviens, il y a quand même quelques années, quand l'ESKIC, une forme qui a été mise en place il y a 10 ou 15 ans de société, a été mise en place, les premières SKIC qui ont été créées étaient des SKIC, des magasins bio, étaient dans la bio. Donc voilà, là dans la salle, il y a des représentants de Biolay, de Biocoop, voilà, qui sont des outils économiques mis en place par les producteurs bio, mis en place par l'économique de la bio, avec une contractualisation, avec une autre forme d'économie que celle qu'on connaît dans... Voilà. Donc voilà un peu pour dire aussi que ce champ de l'économie sociale et solidaire, comme ça a été un peu dit tout à l'heure, il faut que l'agroécologie... se trouve, alors j'allais dire le modèle économique, c'est pas un beau mot, c'est le modèle économique aussi utilisé par d'autres, mais il n'empêche, on ne peut pas forcément ne parler d'agroécologie sans avoir quel rapport on a par rapport au consommateur, puisque c'est quand même le consommateur dans son acte d'achat qui va orienter, qui va dire ce qu'il veut. Il dit ce qu'il veut par rapport à la qualité des produits, il dit ce qu'il veut par rapport à la qualité de l'agriculture. Donc l'agriculture, l'agroécologie doit avoir ce rapport aussi, quoi. Alors, tout clair, en bio, on n'est pas pour que l'agroécologie se définisse un logo agroécologie à mettre sur les produits au même titre que la bio, puisque on voit pas où serait la différence. Et donc, il faut trouver l'autre modèle économique qui permette à l'agriculture, l'agroécologie de se développer, de vivre. Et cet autre modèle économique, c'est autour des aides de la PAC, donc des aides globalement de la société civile, c'est autour du retour des externalités positives, donc par exemple de l'eau. Il y a beaucoup d'argent sur les agences de l'eau, donc comment les agences de l'eau renvoient, ou comment les agences de l'eau sont consommateurs d'agroécologie. À mon avis, le marché de l'agroécologie, c'est le marché de la société. C'est pas un marché de produits, mais c'est un marché de société. Enfin, bon, c'est quelque chose dont on peut discuter. Et voilà. Bon, en disant tout ça, j'essaye de faire tout. Donc, j'en échappe un peu. L'autre marché important, c'est aujourd'hui encore, ça a toujours été important, mais peut-être encore plus aujourd'hui, c'est l'emploi, c'est les territoires. J'entendais dire tout à l'heure les emplois de la filière laitière, je ne vais pas monter la filière laitière, mais l'ensemble de l'agriculture conventionnelle, aujourd'hui déménage le territoire. Si vous connaissez une agriculture, enfin une production laitière, on va rester dans l'exemple, sur un territoire, avec un agrandissement des élevages, avec des robots de traite, voilà. On a du lait qui est produit à partir de soja qui vient du Brésil, enfin de très loin, qui vient avec du maïs qui est lui produit avec des engrais qui viennent de Roumanie, voilà, et avec des vaches qui sont traites par un robot avec un technicien qui vient de 200 km parce que le petit gars du coin n'est plus capable de le faire. Donc on assiste à un vrai déménagement du territoire, il faut s'en rendre compte. L'agrandissement des fermes, l'industrialisation des fermes entraîne un déménagement du territoire. Le contraire, il faut le financer, enfin, je veux dire, en termes d'emploi, en termes, voilà, une agriculture plus localisée, voilà, il faut qu'il y ait un accompagnement de l'emploi. Donc l'agroécologie doit servir à ça, à savoir accrocher l'accompagnement de la société, des collectivités publiques sur une évolution de l'agriculture. Je vais pas être beaucoup plus long. Donc, à mon avis, l'agroécologie, c'est le moment. C'est pour paraphraser, je ne sais pas s'il y en a qui ont suffi les grands discours du monde agricole, quoi, mais bon, voilà. C'est le moment pour l'emploi, je viens de le dire. C'est le moment pour la sécurité de notre alimentation. Alors, sécurité à tous les niveaux, hein, en termes de quantité, de ressources, en termes de qualité, bien entendu, par l'eau notamment. Mais aussi, c'est aussi le moment pour la paix. Puisque énormément de guerres dans le monde se font sur la base de la ressource. Avant, on faisait des guerres pour conquérir du territoire. Aujourd'hui, on fait des guerres pour conquérir de la ressource. Pétrole, uranium, voilà. aujourd'hui, on est sur une forme de guerre économique sur l'accaparement de la ressource en terrain, des pays qui investissent dans d'autres pays. Voilà, quoi. Il faut absolument qu'on revienne sur une agriculture, une agroécologie en termes mondiaux, qui à tout prix limite, enfin, coupe même le pied sous... ça. Sinon, voilà, demain, on aura des guerres basées sur la ressource, l'accaparement de la ressource alimentaire pour chacun des peuples. Donc voilà, maintenant, s'il y en a qui veulent poser des questions, je suis à votre service. Merci.
Alors, moi, je voulais commencer une petite question, justement. Oui, oui, parfait, le timing parfait. Alors, d'après le rapport de l'agence bio, n'est-ce pas, dont vous étiez encore jusqu'à une date récente...
Toujours vice-président.
Voilà. Alors, pour 2011, en fait, parce que j'ai repris des chiffres que j'avais utilisés pour mon livre, donc vous avez, en fait, depuis sorti récemment le dernier. Mmh. Enfin, voilà, en 2011, en tout cas, il y avait 20 604 agriculteurs biologiques enregistrés en France.
24 385. Non, c'est faux, c'est dans les 24 000.
Bon, je sais pas voilà. Exactement. Qui exploitent 700 000 hectares, ça fait
1 million d'hectares aujourd'hui.
D'accord, donc voilà, c'est pour réactiver.
Oui,
voilà.
C'est bien, c'est bien.
Et c'était à l'époque, soit 3,08% de la surface totale cultivée.
Oui, entre surface et nombre de producteurs, là je m'en mêle un peu, c'est par là, c'est entre 3 et 4%. En sachant que là, faut, dans les chiffres, la baisse du nombre de paysans général impacte l'augmentation du nombre de paysans bio, quoi. Et sur certains territoires, c'est terrible, quoi. Donc il faut s'en rendre compte, quoi. Ça augmente grâce à nous, mais aussi parce que... Et c'est terrible parce qu'on perd énormément d'agriculture. Donc, il y a tout un champ à développer d'ailleurs sur la reprise, je pense que.
Oui, alors on va en parler, mais c'était justement. Parce que, donc ça faisait, toujours pareil, chiffre 2011, désolé, ça faisait 15 agriculteurs qui se convertissaient par jour à l'agriculture biologique en moyenne, c'est ça? Alors moi je suis assez frappée parce qu'avec les moissons du futur, j'ai fait un tour de France, n'est-ce pas, avec des salles combes et des paysans conventionnels qui levaient la main, c'est de plus en plus courant, n'est-ce pas? Et Marc, je pense que vous allez avoir le même témoignage, hein, qui disent on voudrait bien changer, on ne sait pas comment faire. C'est très, on l'entend très souvent, ça. Alors, première réponse rapide, parce qu'on va en parler hein, pendant la journée, mais qu'est-ce qui manque, là, pour que ceux qui sont prêts changent?
Ah, c'est dommage que Stéphane Le Foll soit plus là, pour ce qui manque. Non, il manque plus... Enfin, il y a plusieurs choses. Il y a la perception de la bio. La perception trop souvent donnée d'une bio trop limitée à son marché, voilà, alors que nous, paysans, nous ne vivons pas ça du tout. On vit la bio comme étant un outil d'agroécologie et pas du tout comme occuper un marché. Mais ça fait un peu peur aux gens et tout. C'est aussi, si on base sur le développement du marché, ça veut dire aussi qu'on passe par la contrainte, la limitation du nombre d'opérateurs qui peuvent aussi passer en bio, et ça c'est une contrainte. Donc il y a eu un gros travail de feu par l'agence, mais aussi par le ministère, sur comment améliorer justement, enfin faire en sorte que tous les artisans et tout ça puissent mettre de la bio, enfin voilà, qu'on puisse développer de la bio, parce que de la même façon au niveau des consommateurs, beaucoup voudraient acheter de la bio, mais des fois ne le trouvent pas en proximité, ou des fois aussi en prix de façon acceptable. Au niveau des paysans, c'est un peu la même chose. Alors, oui, ceux qui lèvent la main, c'est quand même ceux qui... Voilà. Donc on les note d'habitude, on est dans les réunions. Bien sûr, on a animé les réunions, enfin les films et tout. Donc on note, et puis comme ça, après, ça permet de monter les stages de conversion à la bio. Mais après, il y a quand même une grande masse. Moi, je suis toujours frappé, à chaque fois que je peux, j'amène des revues agricoles spécialisées, très spécialisées, voire des revues qui appartiennent à des groupes... agroalimentaire ou une machine agricole et tout. Et les paysans, ils reçoivent ça. Moi, je suis paysan, dans les Vosges, voilà. Je sais ce qu'on reçoit. Je reçois la même presse que l'ensemble des paysans. En même temps, j'ai la chance d'avoir l'accès à d'autres sources d'informations, voilà, quoi. Mais je sais ce que reçoivent l'ensemble des paysans, voilà. Et si vous ne recevez que ça et que vous n'avez pas vraiment le temps d'aller voir ailleurs, c'est très difficile de changer la communication, la campagne qui est faite pour justifier le modèle agricole actuel est très très puissante. Merci pour les films que tu fais, mais eux c'est puissance 10, 20, 100. Donc faut comprendre ça, et donc c'est très difficile pour un paysan de sortir
sortir de ça.
Mais est-ce qu'il faut, par exemple, un autre chiffre, hein, 2011, budget pour la conversion, 17 millions d'euros, deux fois moins qu'en 2010, 10 fois moins que la filière agro-carburant. Alors, est-ce qu'il faut des sous? Est-ce qu'il, moi, je vais être concrète. Est-ce qu'il faut des sous pour accompagner cette conversion des paysans qui sont prêts? Voilà.
Les sous, là, ils accompagnent les paysans qui font le pas. Aujourd'hui, il faut des moyens pour dire aux paysans, vous pouvez faire le pas. Donc, il faut des moyens d'accompagnement, des moyens d'information, des moyens de formation, la formation dans les écoles, la formation des maîtres d'école, la formation des techniciens, enfin, voilà, c'est ces moyens-là qu'il faut. Après, il faut les moyens pour accompagner les paysans, quoi. Les paysans ne vont pas changer de système, et c'est heureux, parce qu'ils vont toucher 80 euros de plus de l'hectare de prime pendant 3 ans ou 5 ans. C'est pas ça qui... Voilà, on ne change pas de système à ce point-là, surtout qu'aujourd'hui, l'écart se creuse, hein. Les paysans prêts à passer facilement, tel que j'étais, moi, 20 ans que j'ai passé en bio, je me suis déclaré bio. C'était pas très compliqué, hein. J'ai pas eu d'aide, remarquez. Mais bon, aujourd'hui, la difficulté, voilà, il faut reconvertir des systèmes, des systèmes qui vont très loin et qui demandent des moyens de reconversion. Il faudra envoyer des moyens de employer des moyens de reconversion de l'agriculture, comme on a fait la reconversion de la sidérurgie, qu'on a fait, voilà. Il faut des moyens, et ça va être des moyens massifs à mettre là-dessus. Quoi.
C'est ça une question, donc, on va suivre avec, donc, les propositions de M. Stéphane Le Foss, c'est une question importante. Alors je crois que Joël, vous vouliez poser une question, n'est-ce pas?
Oui, donc il y a les moyens vers les paysans individuellement, mais aussi les moyens à mettre en œuvre pour l'organisation des filières.
Ah oui.
Transformation, distribution, il va falloir passer à l'échelle au-dessus, et ça mérite véritablement soutien.
Ça mérite soutien, et ça mérite surtout de soutenir les initiatives qui vont vers... un renforcement des rapports entre le citoyen, le paysan, le consommateur, puisque, par exemple, nous, on s'oppose farouchement à ce que le modèle agricole ne soit guidé que par les paysans. Moi, je suis paysan, mais je suis contre d'être le seul à décider de où vont les terres, ou voilà, non, c'est pas... Voilà, il faut que la société civile s'y implique. Et il faut des moyens pour ça, bien entendu. Il faut des moyens. C'est pas très cher par rapport à bien des moyens qui sont mis ailleurs, hein, de toute façon.